seuls 11% des masses d'eau de la région sont en bon état écologique. L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Le rendez-vous est donné à quelques arrêts de bus du centre-ville de Nantes, au bord d'un chemin boisé menant à la rivière. Un groupe de bénévoles est réuni pour prêter main forte lors d'un chantier d'entretien participatif organisé par la Fédération des Amis de l'Erdre. L'objectif de cette association nantaise créée en 1991, impliquer le public dans la préservation de ce milieu naturel. C'est l'occasion de rencontrer Gwendoline Monnier, chargée de mission Zone Humide et animatrice de cette activité.
Donc la Fédération des Amis de l'Erdre, c'est une association qui existe depuis 30 ans et qui a pour but de préserver l'Erdre, son bassin versant, sa biodiversité, sa qualité de l'eau. Donc il y a deux grands axes. D'un côté, la préservation des milieux naturels et la qualité de l'eau. Donc on va faire beaucoup d'études sur les zones humides. On va regarder la faune, la flore, comment l'eau circule, comment ça fonctionne, pour mettre en évidence quels sont les enjeux sur ces secteurs-là. Et après, on met en place des mesures de gestion, de restauration des milieux naturels. Une grande partie de ces actions, que ce soit les inventaires et surtout les chantiers, sont faits avec des bénévoles où on implique les citoyens et les citoyennes. L'autre champ d'action de l'association, c'est l'éducation à l'environnement, à la nature. Donc on va faire à la fois des animations dans les écoles, les collèges, les centres de loisirs. Il y a aussi des sorties grand public pour parler au maximum de ces sujets-là avec une approche sensible et d'éducation populaire. Et il y a aussi une volonté de rendre la nature accessible pour toutes et tous.
C'est comme ça, je sais, tout à l'heure je vous parlais du campagnol amphibie. Quand il faut aller le chercher, des fois, hop, je pense, il faut réfléchir campagnol amphibie. On se met tout bas et puis on essaye de regarder. Ok, où est-ce qu'il y a des petites galeries qui commencent? Et puis c'est là où on va venir remonter comme ça le chemin du campagnol amphibie.
Donc là, on est devant une frayère à brochets qu'on appelle la frayère de la Noue, ici. Donc c'est une zone humide, donc il y a beaucoup d'eau dans le sol. Et c'est un endroit qui est un peu particulier parce qu'il se retrouve vraiment au bord de la rivière. Et donc c'est un endroit qu'on a restauré il y a 10 ans pour qu'il y ait les bonnes conditions pour la reproduction du brochet. Les lieux où le brochet peut se reproduire, c'est ce qu'on appelle une frayère.
L'idée, en fait, c'est de venir tailler tous les jeunes arbres qui repoussent. Donc l'avantage, en fait, vu qu'on le fait régulièrement, c'est qu'on n'a pas besoin de sortir la grosse tondeuse, on peut faire ça avec nos petits sécateurs. On vient couper bien à la base, donc vous voyez, il y en a un peu partout, et puis après, on les ramène tout en haut.
On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas, et donc on ne peut pas avoir envie de préserver ce qu'on ne connaît pas. Donc il faut connaître et être dans le faire, c'est un super moyen de connaître et même plus de sentir, en fait. C'est savoir un nom, c'est bien, d'un nom de plante ou quoi que ce soit, mais avoir un lien particulier, comprendre cette plante, ce genre de choses, c'est quelque chose qui est plus fort et qui va donner plus d'envie aussi de préserver ces milieux-là.
Au beau milieu de la frayère, Ludovic, un bénévole de l'association, est à l'œuvre. C'est son deuxième chantier de la journée.
Gwendoline nous a demandé en fait de couper les repousses d'arbres. Il y a du saule, il y a du frêne de mémoire et il y a aussi de l'osier.
On avait compté qu'on a à peu près 150 à 200 personnes qui passent par nos chantiers, sur nos chantiers par an. Donc il y a des gens qui viennent qu'une seule fois, il y a des gens qui reviennent tous les samedis, comme tu as pu le voir. Il y a une petite troupe d'une trentaine de bénévoles que je revois régulièrement dans l'année.
Ce matin, on a remis une mare en état, coupé des arbres pour pouvoir ramener la lumière. On fait aussi 2-3 fois par an des ramassages à déchets le long de l'Erdre. Et on rouvre aussi hier quelques prairies.
Tout ce qu'on fait là, nos chantiers bénévoles, c'est un lien social entre les gens qui ne se seraient probablement jamais croisés. Des fois, on va travailler avec des associations de jeunes qui vont être en réinsertion. Des fois, on va travailler avec des personnes qui viennent d'instituts médico-éducatifs. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Et donc, tous ces gens-là, ils se mélangent et ils travaillent ensemble. Et travailler ensemble, tout de suite, ça crée du lien entre les gens. Et ça, c'est aussi hyper important. Aujourd'hui, on ne pourra pas faire de préservation de l'environnement sans faire du lien entre les gens, sans mêler le social et l'écologie sont étroitement liés. Et c'est ça qu'on essaye aussi de refaire à l'association.
Il reste juste un petit peu à finir de ramasser ce qui a été fauché, donc on peut se mettre au râteau.
Okay.
Et puis je pense que dans 10 minutes on a terminé, on fait une petite pause goûter.
Pensée locale, un enjeu de société.
Selon le code de l'environnement, les zones humides sont des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau, douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. Qu'il s'agisse de lacs, de rivières, de marécages, de marais ou de tourbières, les zones humides sont essentielles à notre écosystème. Source d'eau, elles nous protègent des inondations, de la sécheresse, abritent une très grande diversité d'espèces et stockent plus de carbone que tout autre écosystème terrestre. Pourtant, les zones humides sont aujourd'hui des espaces fragilisés et en déclin. Selon l'IPBES, plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, 87% des zones humides ont disparu entre le 18e et 20e siècle et leur déclin est trois fois supérieur à celui des forêts. En cause, l'activité humaine et une perception longtemps négative, ces espaces étant considérés comme insalubres. Pendant plusieurs siècles, il s'agissait donc non pas de les préserver, mais de les assécher en vue de les modifier et de les adapter aux activités agricoles et industrielles. Alors, comment protéger les zones humides et limiter leur déclin? Quels sont les risques qui pèsent sur ces espaces essentiels à la biodiversité? Et qu'en est-il ici, en Loire-Atlantique, département particulièrement marqué par les zones humides? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Mohamed Manan, maître de conférence en géographie environnementale à l'Institut de géographie de Nantes Université. Bonjour.
Bonjour.
Alors, les zones humides sont aujourd'hui protégées. En France, toute intervention dans les zones humides est strictement encadrée par la loi, notamment par le Code de l'environnement. Pourtant, on parle là d'espaces naturels d'une grande diversité, variée et variable, qu'il n'est pas toujours aisé d'identifier et de définir avec précision. Alors, de quoi on parle quand on parle de zones humides et surtout comment comprendre les fonctionnalités?
Si je peux imaginer un peu la zone humide, donc je peux la matérialiser comme une maison. Donc une maison avec un petit jardin devant, et puis vous avez devant le jardin, vous avez une route qui exerce en quelque sorte une forme de pollution sonore sur votre bien. Imaginez par exemple cette route, le jardin devant, donc il joue un rôle tampon face à cette pollution sonore. Ensuite, dans votre maison, vous avez par exemple un salon pour accueillir des invités temporaires. Vous avez une cuisine, une salle de bain où vous allez vous nettoyer. Donc imaginez par exemple que la mairie décide un jour d'élargir sa route principale qui est devant votre maison. Donc, la pollution sonore s'approche de votre bien vivant et vous commencez à subir un peu cette pollution sonore. Maintenant, votre maison, vous l'imaginez, c'est une zone humide. Donc derrière la zone humide, donc, c'est le continent. Et devant, ce qu'on avait imaginé comme une route, c'est la mer, et que la mer subit une élévation au niveau de la mer. Donc cette élévation au niveau de la mer va en quelque sorte dégrader ce qu'on appelle les fonctionnalités de votre zone humide. On va aller vers une forme d'une érosion de la biodiversité, parce que les gens qui habitent dans votre maison, ce sont les espèces vivantes qui sont très nombreuses, parce que la zone humide, c'est un des écosystèmes les plus productifs au monde. C'est l'écosystème où on a la plus riche biodiversité.
Oui, c'est un tiers des espèces qui seraient abritées par les zones humides dans cette zone.
Exactement. Sachant qu'il n'y a pas que le forçage naturel, qui est l'élévation de la mer, qui est aussi favorisé par des actions anthropiques, parce qu'avec toutes les activités humaines derrière, on voit plus de polluants dans la zone humide qui dégrade cet environnement. Certaines espèces qui sont en quelque sorte espèces nobles parce qu'ils subissent la pollution, ils vont disparaître.
Oui, parmi les causes de dérèglement des zones humides, on a donc la hausse du niveau de la mer, la pollution, les activités humaines essentiellement, dont l'artificialisation des sols.
La zone humide, c'est une zone tampon. Donc quand on artificialise une zone humide, on diminue un peu certains services, notamment sur par exemple, si on prend juste l'exemple tout simple, si on construit une route, on diminue le pouvoir de l'infiltration de l'eau. On parle un des services les plus précieux de la zone humide, c'est qu'elle joue un rôle tampon face, par exemple, à des risques de submersion marine, à des inondations, et ainsi de suite.
Espace précieux, mais néanmoins un espace aussi dont la perception a été fortement négative pendant plusieurs années.
Exactement.
Il va falloir attendre notamment la deuxième moitié du XXe siècle pour que les zones humides passent de zones à drainer à zones à préserver. Et là, je pense notamment à la convention sur les zones humides, appelée convention de Ramsar de 1971, qui s'avère être le seul traité international ayant force de loi spécifiquement consacré aux zones humides. Celui-ci vise en particulier à favoriser leur conservation et leur utilisation rationnelle à l'échelle mondiale. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce changement de perception et surtout quel rôle ont joué les scientifiques là ici?
Tout simplement parce que les scientifiques n'ont pas cessé d'alerter le grand public de le rôle principal de la zone humide qui préserve énormément de services écosystémiques pour la société et pour la nature. Il y a une richesse qui est extraordinaire dans ces zones humides. Et cette richesse qui commence un petit peu à s'atténuer, ce qu'on appelle l'érosion de la biodiversité. Ça veut dire qu'on commence un petit peu à réduire en quelque sorte cette richesse. Donc on a commencé un petit peu à préserver les zones humides côtières, comme les lagunes. En France, on a la loi de l'eau, par exemple, qui préserve ces espaces. Quoique, pour l'instant, on ne préserve que les zones humides qui sont inventoriées. Les zones humides qui sont des petites zones humides, qui ne sont jamais été inventoriées, parce qu'elles sont très petites, échappent à tout ce système juridique pour les préserver.
Donc, il y a vraiment un enjeu là à bien répertorier toutes les zones humides, même les plus petites, parce qu'elles ont aussi un rôle essentiel.
En France, par exemple, on a 15-30% des zones humides sont des petites zones humides et qui ne sont pas inventoriées dans la base de données, ce qui fait qu'il n'y a aucun pouvoir de protection des zones humides, parce qu'il existe parfois même chez des particuliers, dans les vallées, sur des champs agricoles, et ils sont dilués un petit peu dans le paysage.
Et c'est le cas notamment, il me semble, en Loire-Atlantique, où de nombreuses petites zones humides sont présentes, mais du coup, à ce que je comprends, elles ne sont pas protégées et peuvent donc être détruites assez facilement.
Exactement, parce qu'ils font partie de paysages agricoles, alors qu'ils jouent un rôle très important aussi, comme les autres zones humides. La zone humide aussi peut stocker des polluants comme les nitrates, ce qu'on appelle la dinitrification par exemple. Elle peut stocker aussi des polluants comme les métaux lourds. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il faut restaurer ces zones humides ? Combien ça va coûter ? Ou bien il faut les détruire et recréer des nouvelles ? Donc on est arrivé à ça. Là, il faut vraiment, c'est une responsabilité de tout le monde. Il faut y aller pour arrêter un peu le massacre et essayer de restaurer ce qu'il y a à restaurer.
Oui, là, vous parlez de la possibilité éventuellement de restaurer donc les écosystèmes ou compenser en tout cas leur disparition. Mais en fait, se pose la question de est-ce que c'est seulement possible quand un écosystème est altéré, est-ce qu'on peut justement le rétablir ?
On peut le rétablir s'il n'a pas atteint un seuil limite. Mais au-delà, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que vous savez que dans l'écosystème de la zone humide, dans tous les écosystèmes, il y a un biotope. Un biotope, c'est le sol, l'eau, l'air, qui a des caractéristiques physico-chimiques très bien précises. Puis on a aussi la biocénose. Et donc la biocénose, c'est que toute la chaîne trophique. Donc si on altère un des différents paramètres, que ce soit de biotope, que ce soit de la biocénose, l'équilibre sera rompu. Donc soit les espèces ou l'écosystème va se résigner, va essayer de retrouver son équilibre tout seul avec le temps si on le laisse tranquille, soit il va évoluer vers autre chose.
Alors, quelles sont les autres pistes pour parvenir à préserver les zones humides ? Donc, il y a le cadre législatif qui est là, qui existe effectivement en France, qui protège les zones humides. On pourrait questionner peut-être son efficience.
Je pense qu'on peut aller encore plus loin. On peut aller encore plus loin, ça veut dire qu'on peut aller vers la création des observatoires d'environnement et voir à quel moment on atteint les limites pour dire, voilà, attention, là, on touche le fond et puis la zone humide commence un petit peu à se dégrader, commence à subir. Il faut intervenir tout de suite pour essayer de restaurer ce qu'il y a à restaurer. Voilà les rapports qu'on peut rendre publics à tout le monde pour voir est-ce que le pouvoir public a joué son rôle, est-ce que la société a joué son rôle et quel résultat. Est-ce qu'on est dans le bon sens ou pas ?
Donc une responsabilité la partager pour préserver les zones humides. Et ça me fait penser donc à Benoît Biteau, qui est président du Forum des Marais Atlantiques. Il nous dit ceci, l'enjeu autour des zones humides est un enjeu citoyen. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Et surtout, en quoi finalement les zones humides, ça nous concerne toutes et tous ?
C'est exactement ça, c'est le sens de responsabilité. Ça veut dire qu'il faut dire que la zone humide appartient à tout le monde. Et à tout le monde est responsable de la protéger. Il faut préserver ces zones humides pour préserver notre environnement et surtout pour préserver nos vies aussi, hein, parce qu'on est dépendants.
Est-ce que vous avez le sentiment, et on va finir là-dessus, que l'urgence de la préservation des zones humides, elle est suffisamment prise en compte ?
Moi, je pense qu'il faut sensibiliser les gens à utiliser moins de polluants dans leur quotidien pour avoir en quelque sorte une bonne santé. Et donc là, il y a l'approche qui commence à se développer à 4-5 ans. C'est ce qu'on appelle One Health. Donc ça veut dire pour avoir une santé environnementale, une santé humaine. Donc c'est une seule santé.
Oui, pensée globale, finalement,
exactement.
Tout est lié. Et là, pour revenir simplement à ma question, est-ce que la prise en compte donc justement de tous ces enjeux-là, et notamment dans leur globalité, est-ce qu'elle est suffisante par les pouvoirs publics, et là, notamment en Pays de la Loire ? Parce que vous disiez qu'il y a pu y avoir une volonté à un moment donné de mettre en place des observatoires, puis finalement, on est revenu à ça.
Pour l'instant, il y a certaines initiatives qui ont commencé. À part si je parle des grands organismes comme l'Office français de la biodiversité qui a toujours pris en charge ces questions-là au sérieux depuis toujours. Et puis, certaines associations qui sont toujours présentes sur le territoire. Mais à part ces petites actions, ça reste un peu quand même timide. Donc, on n'est pas vraiment passé à l'acte où il y a des appels d'offres, où il y a des recherches de pointe pour aller financer certains projets de recherche. Mais je pense que ça va venir très, très vite parce qu'on a commencé à sentir un peu les dangers, les risques que subissent ces espaces face à l'aléa naturel, qui est l'éloignement de la mer, et puis aussi face à forçage anthropique, que sont l'urbanisation galopante et puis l'utilisation de l'espace.
C'était L'eau, un enjeu de société, une série spéciale de la Frappe en partenariat avec Terre des Sciences, avec le soutien de la région des Pays de la Loire.